Mardi dernier, le milliardaire Elon Musk a lancé une fusée, la fusée Falcon Heavy, et ça s'est passé comme ça à peu près.
Falcon Heavy is configured for flight.
T-minus 15, standby for terminal count. 10, 9, 8,
side booster ignition.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Side engines on power, also look good.
Voilà, vous ne savez pas très bien si c'était un spectacle, une prouesse technologique, les deux. Et c'est d'ailleurs pour le savoir que je vous ai invité, Isabelle Sourvès-Berger. Vous êtes géographe, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'étude comparée des politiques spatiales dans leur dimension technologique et politique, et auteur notamment de un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace. Votre point de vue sur ce qui s'est déroulé avec le lancement donc de cette fusée?
Oui, alors ce qui est très surprenant justement, c'est l'ambiance que vous soulignez. Quiconque a eu la chance d'assister à un tir et pas du tout dans ce genre de d'ambiance où effectivement chacun est très, assez tendu, en même temps très attentif et où ça paraît une affaire sérieuse de haute technologie et vous êtes dans un silence qui à sa façon est aussi une manière de célébrer l'événement. Là, c'est le choix délibéré par Elon Musk de faire rentrer l'espace dans une nouvelle ère, vous savez. C'est ce qu'on appelle l'espace 2.0 ou le New Space, même si en réalité, il y a beaucoup à dire sur la réalité de cette différence. En tout cas...
Justement, parce que c'est ça qui est important, effectivement, et qu'il faut souligner, Isabelle Sourvès-Berger. Si on prend, en fait, tous ceux qui aujourd'hui investissent dans l'espace, ce sont des gens très cool et très argentés. Il y a donc, évidemment, Elon Musk. Alors, c'est le patron de Tesla. C'est voitures électriques. Il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Richard Branson, qui lui est assez connu, le patron de Virgin, Larry Page, le patron de Google, bref, toute une série de milliardaires, bien souvent issus des nouvelles technologies, qui se présentent comme des gens extrêmement sympathiques et qui se lancent dans l'espace. Pourquoi ? Et encore une fois, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour vous ?
Alors justement, ces gens-là qui se lancent dans l'espace, ils se lancent dans un fragment bien particulier de l'activité spatiale. Alors, c'est vrai que les lanceurs, c'était quand même ce qu'on considérait comme la partie la plus complexe et d'une certaine manière la plus spatiale, parce que quitter la Terre, c'est vraiment ça la difficulté. Ils ne sont pas, pour autant, je veux dire, vous avez à côté ULA et les grosses entreprises qui ont toujours fait du spatial, qui continuent à exister. La différence, c'est que tous ces entrepreneurs, précisément, ils sont arrivés en annonçant qu'en tant qu'entrepreneurs, ils s'intéressaient à l'espace. Et ça, c'est le résultat d'une politique très ancienne des États-Unis qui souhaitait depuis, en fait, même Reagan, donc ça remonte à très très loin, depuis les années 80, qui souhaitait que finalement, l'espace soit un lieu d'activité comme les autres. Et donc, vous aviez eu pendant longtemps la référence au ferroviaire pour les lanceurs en disant, bah écoutez, le spatial finalement doit faire des lanceurs réutilisables. Alors, à l'époque, le premier lanceur réutilisable, c'était quand même la navette spatiale. Et ça, c'était la NASA qui le faisait. Bon, il y a eu beaucoup de déconvenues.
Pourquoi ? On se souvient des déconvenues, mais pourquoi cette idée qui, en apparence, semblait pertinente, n'a pas finalement donné les résultats que l'on espérait ?
L'idée au départ, c'était ce qu'ils appelaient le commuting, c'est-à-dire finalement on va dans l'espace, on en revient exactement comme on prend le métro. Oui, sauf que à l'origine, il devait y avoir une navette et une station spatiale pour accueillir. Or, la décision politique américaine a été de moins investir dans l'espace et de ne faire que, dans un premier temps, le moyen de transport spatial. Et c'est bien que ce moyen de transport spatial, il s'est transformé en mini-station, en quelque sorte, puisque c'était, pendant une dizaine d'années, le seul moyen qu'ont eu les Américains d'expérimenter dans l'espace. Et en plus, comme il a fallu vendre ce qu'on a appelé le tout navette, c'est-à-dire qu'on a arrêté les lanceurs classiques, on a essayé de trouver à la navette des qualités que les autres n'avaient pas. Et on a en particulier vendu, vraiment vendu, l'idée aux militaires américains qu'elle pouvait à la fois mettre en orbite des énormes satellites, la navette avait une coiffe énorme, et qu'elle pourrait même peut-être aller réparer des satellites. Et donc on a créé un mythe autour de la navette qui devenait l'instrument à tout faire. Et à l'époque, ça a beaucoup séduit, puisque en France, on a imaginé, en Europe, on a imaginé de faire un avion spatial qui était Hermès, que les Russes, de leur côté, ont fait cette navette Buran qui n'a volé qu'une fois en mode automatique. Et puis, on s'est rendu compte que telle que la navette était construite, avec cette masse énorme d'emport et qui en plus devait revenir sur Terre, eh bien finalement c'était très coûteux, c'était difficile technologiquement et c'était pas efficace. Et on est revenu au lanceur classique.
Mais alors le lanceur classique, du coup, lui, il est beaucoup moins prometteur dans la manière qu'il a, donc à la fois de nous faire rêver et puis...
C'est surtout le lanceur classique qui fait pas mal rêver, parce que si vous regardez le nombre de fois où on montre des tirs de lanceurs dans les émissions et où les gens sont soucieux enfin, même d'aller voir, vous avez des touristes qui essaient d'aller voir des tirs. Bon, donc le lanceur, il a quand même sa façon d'être. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez consommé le lanceur, vous le tirez une fois, et c'est fini. Et donc, l'originalité d'Elon Musk, ça a été de dire, on va garder l'idée du réutilisable, mais cette fois-ci, du réutilisable dans une version économique. C'est-à-dire que si mes boosters, ces gros moteurs d'appoint, retombent et que je peux les récupérer, et que je peux les remettre en état pour les retirer, j'ai moins de boosters à fabriquer. Et puis, ça me coûte au final beaucoup moins cher. Ça ne marche que si vous lancez beaucoup de lanceurs et beaucoup de satellites à des intervalles relativement rapprochés.
Pourquoi ?
Parce que l'intérêt de réutiliser et de remettre en marche votre booster après un tir, c'est que du coup, ça va beaucoup plus vite que de fabriquer tout un lanceur, bien évidemment.
Bien sûr, mais ça veut dire que c'est possible de les récupérer et c'est
ce qu'il fait.
Technologiquement, donc en cours.
Quand vous regardez justement le dernier reportage qu'on voit sur le site de SpaceX, hein, et d'ailleurs l'opération de com a été très très bien faite puisque vous aviez partout des liens pour aller vous connecter en direct sur ce site, vous voyez très bien au moment où le premier étage se sépare, le lanceur qui retombe, ça tous les lanceurs retombent et théoriquement brûlent dans l'atmosphère, et là finalement vous avez la capacité pour le lanceur de pénétrer, de revenir à travers l'atmosphère, ce qui suppose une protection, et surtout, vous avez ces deux bras qui se déplient et qui font l'atterrissage. Et l'innovation, elle est là.
Bon, alors ça, c'est sur le plan technologique. Sur le plan quasiment capitalistique, ce que l'on voit aussi apparaître, c'est un espace privé, puisque donc tous ces gens que je vous ai cités, de Jeff Bezos à Elon Musk, sont tous sauf des philanthropes, s'ils se lancent dans l'espace parce qu'ils pensent gagner de l'argent. Vous faites la moue, vous n'êtes peut-être d'accord avec ça. Mais en tout cas, on se dit que aujourd'hui, cet espace, il risque d'être privatisé, ou en tout cas, ce qui auparavant était le fait de nations devient le fait de milliardaires.
Oui, quand même, les lanceurs, dans le monde occidental, hein, c'est pas vrai pour les entreprises d'État en Russie et en Chine, mais dans le monde occidental, les lanceurs, ils étaient fabriqués par des grandes compagnies, par Airbus, par Boeing, par Lockheed, aujourd'hui par ULA. Et donc, si vous voulez, le privé tenait déjà le spatial. Simplement, c'était pas identifié. On n'avait pas le CEO, le président de ces grandes sociétés qui s'attribuait cette image de l'entrepreneur spatial, parce qu'il ne se vivait pas en entrepreneur, il se vivait en industriel. Maintenant, que vous preniez Jeff Bezos ou Elon Musk, on parle beaucoup d'Elon Musk en ce moment parce que c'est lui qui a le succès le plus fulgurant. Ce qu'il fait, c'est se battre contre justement ses compétiteurs américains pour obtenir les contrats. Et là, par rapport au contrat que le Pentagone a passé récemment, ce qui représente un nombre de lancements très significatif, il a au début, intenté d'ailleurs une action en justice parce qu'il estimait que les procédures n'étaient pas très justes. Et puis, il a récupéré la grosse partie du marché.
Donc, c'est un marché juteux.
Alors, c'est le spatial et le lancement en soi n'est pas un marché juteux parce qu'on tire beaucoup les prix et parce que ça reste des technologies complexes et sur lesquelles il faut une grande fiabilité. Mais quand vous arrivez à tirer beaucoup, c'est comme toujours, quand vous produisez en masse, vous arrivez à baisser les prix. Mais simplement, il faut que derrière, vous ayez des satellites à lancer. La chance pour Elon Musk, c'est que effectivement, le gouvernement américain paie pour des lancements de satellites et que la NASA et le département de la Défense paient une grande partie des satellites qui sont tirés par Elon Musk. Ceci dit, il ne tire pas que pour les Américains. Et là, justement, le prochain tir qui est très proche, hein, parce que là, vous avez vu le Falcon Heavy, mais à côté, le lanceur classique qu'il utilise, comme nous, on utilise Ariane, c'est le Falcon 9 et il va tirer deux satellites espagnols très tôt.
Et il est confiant sur le nombre de satellites qui seront lancés à l'avenir, parce que là aussi, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de lancements de satellites, mais c'est devenu également une sorte de consommable, Isabelle Fourbès-Verger.
Oui. Les satellites, il y en a beaucoup, mais en même temps, si vous voulez, il n'y a pas de surprise. Vous signez un tir avec plusieurs années d'avance, quelquefois. Alors, avec Elon Musk, c'est un peu plus... Les choses ont bougé un petit peu plus, mais par exemple, vous aviez des satellites qui, depuis 10 ans, savaient qu'ils allaient utiliser tel ou tel lanceur. Pendant une époque, on a eu finalement assez peu de lanceurs disponibles. Avec Elon Musk et avec ce lanceur fait pour être tiré plusieurs fois, qui est vraiment conçu pour ça, eh bien effectivement, on va plutôt être sur le marché des lancements avec une pléthore de lanceurs par rapport au nombre de satellites à lancer. Alors, on a beaucoup parlé des constellations. Ça aussi, ça fait partie du New Space, c'est cette idée de lancer des tout petits satellites. Alors, certains font la taille d'une boîte à chaussures, donc c'est ce qu'on appelle les CubeSats.
Ils servent à quoi ?
Alors, ils peuvent servir à beaucoup de choses. Certains ironisaient en disant, par exemple, ces satellites sont susceptibles de donner une image de la Terre en permanence. Il y aurait quelques milliers de satellites qui prendraient la Terre sous toutes ses faces et vous redonneraient les images. Alors, ça, c'est un modèle assez intéressant, mais la question, c'est finalement, quel est le marché pour ce type de satellite ? Parce que si vous donnez les images, ça marche. Sur Google, on ne paie pas. Sur Google Earth, on utilise les images sans jamais rien payer. S'il fallait payer les images, on serait peut-être un petit peu moins gourmand pour les utiliser. Mais ces boîtes à chaussures, comme on dit, finalement, imaginez que vous ayez quelque chose du style une GoPro ou une caméra à peine améliorée par rapport à ça, et vous pouvez avoir ces images. Ce n'est pas du tout la qualité des images qui sont fournies par des satellites d'observation de la Terre, qui sont stabilisés, qui sont capables de vous donner très précisément la position, etc.
Mais ça, c'est très sympathique. Mais alors, justement, vous évoquiez la question du marché. Qui va payer pour ça ?
Alors, la question, si vous voulez, c'est que justement, d'abord, cette miniaturisation, elle a permis des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Ça, c'est quand même la grosse différence. Après, qui va payer pour ça ? Eh bien, finalement, on a l'impression aujourd'hui que c'est peut-être le consommateur lui-même. C'est-à-dire que, vous savez, maintenant, cette idée que data is oil, les données, c'est le nouveau pétrole. Et donc, cette idée, c'est que finalement, chaque fois que vous téléchargeriez une image, que vous l'utiliseriez, eh bien, on récupère les données que vous avez. On est sur le modèle classique qu'on voit aujourd'hui sur la plupart des utilisations libres d'Internet. Et derrière, vous avez à la fois de la publicité, mais aussi des gens qui ciblent vos pratiques et qui, sur les milliers et des milliers, voire les millions d'utilisateurs, arrivent à tracer différents types de profils et donc font de l'argent en récupérant ces données-là. Ça, c'est un modèle qui est vraiment le modèle classique d'autres types d'activités qui est projeté sur le spatial. Ça ne représente qu'une partie de l'activité spatiale.
Alors, on parlait aussi de deux autres activités. Alors, il y a une activité, vous allez me dire immédiatement si celle-ci est anecdotique ou pas, c'est l'espace touristique. Donc, envoyer des touristes dans l'espace, ça, est-ce que vraiment ça peut avoir un avenir ?
Alors, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Le ticket reste assez élevé. Les premiers qui ont fait ça, c'était les Russes, quand ils ont vraiment cherché à rentabiliser la station Mir à la fin de l'Union soviétique et qu'il fallait vraiment trouver de l'argent pour faire vivre le spatial. C'est un peu compliqué quand même, au moins dans l'état actuel des technologies, parce que d'abord, c'est difficile physiquement. Parce qu'ensuite, si vous pensez à la station spatiale internationale, on n'a pas beaucoup de sièges libres, on n'a pas beaucoup de possibilités. Et puis qu'on utilise quand même les astronautes pour, je dirais, des expériences diverses et variées. Donc, il faut un système dédié. Ce système dédié, il va supposer une infrastructure qui va être assez lourde. Donc, pour l'instant, il ne semble pas qu'on ait un modèle économique qui soit réalisable immédiatement. Et puis, il faudrait voir combien il y aurait quand même de gens qui sont intéressés passer la première campagne. Donc ça, c'est peut-être pas évident.
Avec encore une fois un ticket, quand même un prix assez élevé, Isabelle Sourbès-Verger. Et les activités minières, ça c'est la troisième activité qui était considérée comme pouvant rentabiliser ces lancements. Là aussi, qu'est-ce qu'on attend en matière donc d'activités minières dans l'espace ?
Alors l'activité minière, c'est ce qui était assez étonnant, c'est que finalement, déjà ça pose des problèmes de droit spatial. Parce que théoriquement, dans l'espace, eh bien, on ne peut rien s'approprier. Alors, vous avez tout un raisonnement des tenants de ce genre d'exploitation qui dit, mais en fait, on ne s'approprie rien. On utilise, par exemple, les ressources sur l'astéroïde et après, l'astéroïde continue sa vie. Enfin, sauf que quelquefois, bon, voilà. Mais ce n'est même pas ça le premier problème. Le premier problème, c'est finalement combien ça va vous coûter et combien ça va vous rapporter.
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'espace qui serait utilisable ?
Des métaux absolument rares par rapport à la Terre et que vous pourriez extraire beaucoup plus facilement.
Par exemple ?
Mais j'ignore le nom, le détail des différentes ressources minières
qu'il
y a sur les
astéroïdes. Certain...
Mais si, on est certain, c'est juste moi qui n'ai pas les connaissances
on
géologiques.
On est certain que c'est rentable de faire
non,
ça ?
Non, absolument pas. On n'est pas du tout certain que c'est rentable, mais c'est un petit peu comme toujours dans le domaine du spatial, on explore des pistes. Et donc, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le Luxembourg, il a mis en place une loi spatiale qui fait que si ça devait se faire, il serait extrêmement bien placé pour abriter les sociétés privées qui auraient des conditions financières particulières. Voilà,
mais ça reste un paradis spatial, le Luxembourg.
Ça reste un paradis spatial, mais c'est très intéressant de voir que le Luxembourg avait déjà eu cette politique-là dans les satellites de télécommunication. Et par exemple, quand l'Europe faisait Eutelsat, lui avait fait le satellite Astra qu'il avait lié à Radio Luxembourg et où il s'était très très bien positionné.
Donc, si on veut résumer cette première étape avec Falcon Heavy, avec donc ces lancements privés, complètement privés, et puis avec une sorte de théâtralisation de ce lancement différente des théâtralisations antérieures, Isabelle Sourbès-Verger, c'est sérieux. C'est-à-dire que ça débouche vraiment sur quelque chose et ça va modifier, en tout cas contribuer à modifier le marché du lanceur.
Oui. Alors, le fait d'envoyer une voiture rouge Tesla 3 dans l'espace avec un astronaute attaché, David Bowie, ça, je ne sais pas si c'est très sérieux. Mais c'est pas gênant. Enfin, il aurait pu envoyer n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on envoie, c'est une gueuse, c'est-à-dire quelque chose totalement inanimé. Mais bon, après, il y a la manière et la manière de le présenter. Ça peut être aussi vu comme un débris. Vous envoyez votre voiture rouge et c'est un débris comme n'importe quoi d'autre. Mais ce n'est pas comme ça que c'est présenté. Mais c'est sérieux parce que ça devient rentable.